Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse, 7e cassette, première face, page 268. L'homme, la femme et l'être d'ombre. Au premier temps du monde était un homme seul. Il n'avait pas d'ancêtre. Personne ne vivait sur la terre avec lui. Personne ne lui disputait les sources. Elle n'avait jamais reflété d'autre visage que le sien, ni la forêt. Elle était toute à lui. Il était libre d'aller ou de ne pas aller, d'oublier Dieu ou de l'entendre, de dormir après le lever du soleil, de manger à minuit. Pourtant, il n'était pas heureux. Son cœur sans cesse le fuyait comme un animal apeuré. Un jour, tandis qu'il cheminait sous les feuillages, une pensée lui vint si vivement qu'il resta planté au milieu des broussailles, la bouche grande ouverte. « Quelqu'un manque à ma vie, » se dit-il. Aussitôt, apparut sur son chemin un être pétri d'ombre. Il était large et haut. Il dit à l'homme, « Donne-moi ta main droite. » L'homme tendit la main et l'ombre l'entraîna. Ils marchèrent longtemps parmi les arbres. Des oiseaux les accompagnèrent, des bêtes furtives. Vint le soir, puis la nuit. Ils marchèrent encore. Comme le soleil du matin illuminait la crête des buissons, ils parvinrent au bord d'une clairière. Là était une cabane. Une femme sortit sur le pas de la porte. Elle regarda l'homme. Ses yeux brillèrent. Il s'avança vers elle. Il n'avait jamais osé imaginer une créature aussi belle. Il voulut lui dire qu'elle l'émerveillait. Il ne sut que sourire et gémir doucement. Un moment, ils restèrent face à face à se contempler. Puis, l'être d'ombre vint entre eux, toucha du doigt leurs lèvres closes, donna ainsi sa voix à l'un, sa voix à l'autre. Après quoi, il se dissipa comme une fumée sans parfum. Jusqu'aux premières pluies, l'homme vécut heureux auprès de sa compagne qui se plaisait à rire et à jouer avec lui. Puis, un jour que le tonnerre roulait au loin, sous le ciel bas, il ressentit une souffrance imprécise, une pesanteur vague, une mélancolie. La femme voulut le caresser, pour soulager sa peine. Mais sa bouche et ses mains se mirent à trembler sans oser se poser sur le corps nu près d'elle. Elle pensa « Quelque chose manque à notre vie. » Mais elle ne sut trouver quoi. Elle sortit sous l'auvent et regarda tomber l'averse. Pour la première fois, des larmes lui vinrent aux yeux. Alors, devant elle, apparut l'être d'ombre. Il l'entraîna dans la cabane. Il la fit se coucher près de son compagnon. Il effleura leur ventre. L'homme sut aussitôt quel était son désir. La femme sut comment le guider et l'assouvir. L'être d'ombre s'en fut sans qu'il s'en aperçoive. Quand revinrent les jours ensoleillés, la brume demeura dans les yeux de l'épouse. Ses gestes, peu à peu, s'alanguirent. Son rire se perdit en rêverie. Ses seins durcirent, ses hanches s'arrondirent, son nombril se gonfla. Et l'homme s'inquiéta. Il ne savait que faire. Il s'en alla courir les sentiers, chercha partout, dans les trous de la terre, à la cime des arbres, celui qui les avait instruits. Il n'en vit pas la moindre trace. Le soir, quand il revint fourbu à la clairière, il le trouva assis au chevet de sa compagne. Entre eux, dans un berceau de feuilles, était un nouveau-né. Homme, dit l'être d'ombre, voici ton premier fils. J'ai accouché ta femme. D'autres enfants naîtront de son ventre. Le prochain sera mien. Il en sera ainsi désormais. Sur deux enfants venus, vous aurez l'un, moi l'autre. Tel sera mon salaire pour le savoir que je vous ai donné. L'homme lui demanda, qui es-tu ? Être obscur. Je suis la mort, répondit l'ombre. Vint le jour où la femme mit au monde une fille. L'homme la prit au creux des bras, caressa du doigt son visage, lui sourit et se souvint tout à coup qu'il l'avait promise à la mort. Il s'effraya, il s'en alla fermer la porte, revint à son épouse. Il vit qu'elle pleurait. C'est mon enfant, dit-elle. « Je ne veux pas la perdre !» L'homme lui répondit, « Nous ne la perdrons pas, elle est belle. Ses yeux déjà nous aiment, je la défendrai. » Dès la nuit, il s'enfut la cacher dans un nid de buissons. Ils la nourrirent en secret. Vinrent de nouvelles saisons, d'autres enfants naquirent. L'homme bâtit pour eux une hutte en un lieu où ne menait aucun chemin. La mort, de temps en temps, passait par la clairière et ne voyant jouer sous l'auvent que le premier-né, elle ne demandait rien. Or, un jour, comme elle errait au hasard du sous-bois, taciturne et solitaire, elle entendit des cris et des rires sous un rayon de soleil tombé des hauts feuillages. La mort, à pas de mort, s'approcha, vit des enfants heureux dans l'herbe qui jouaient. Sa tête se pencha sur sa poitrine et son dos se courba. Elle se sentit lasse et triste, infiniment. « Hommes et femmes, gronda-t-elle, j'avais voulu la paix entre nous et la voilà brisée. Soyez maudits, vous qui m'avez trompé. La forêt, désormais, sera votre ennemi et je ne prendrai pas la moitié de vos enfants, mais tous et vous avec. Vous me craindrez partout. Je viendrai à mon heure, invisible, muette. Oh, vous que j'ai aimé, je vous ferai douter de l'amitié de Dieu. » La mort, depuis ce temps, est sur tous les chemins. Personne ne l'évite. Si ce n'est pas sous telle lune, c'est sous une autre qu'on la rencontre. Même à qui sait l'attendre, elle est toujours nouvelle. Monde arabe. Le sage. Il était une fois un vieillard centenaire. Cet homme avait deux fils. Tous les trois habitaient une cabane bancale au fond d'une ruelle, entre les derniers murs du faubourg et la cité des ordures. Ils étaient misérables et contents de vivre. Un soir, les deux frères revinrent à leur masure, sans le moindre crouton, sans la moindre salade, sans le moindre bâton de réglisse à rogner. Ils s'assirent par terre et restèrent la tête basse, à écouter les bruits de leurs estomacs vides. Leur père s'attabla devant son bol empli de crépuscule, réfléchit longuement, dit enfin « Mes enfants, j'ai très faim !» Les deux garçons grognèrent. Une mouche vint bourdonner autour d'eux, explora leurs oreilles et le bout de leur nez, s'en retourna dehors par la lucarne. Le vieillard marmonna « Je déteste avoir faim !» Plus encore, mes fils, je déteste vous voir maigres et guenilleux. Tous les trois, à l'unisson, poussèrent un soupir à fendre le cœur de la lune. Un chien hurla au loin. Mes enfants, vendez-moi, dit enfin le vieil homme. Les fils pensèrent, il est devenu fou. Le père leur jeta un coup d'œil pointu et poursuivit tranquillement son idée droite. « Menez-moi au marché, posez-moi sur une couverture et mettez à mon cou un écriteau sur lequel, proprement, vous écrirez ces mots « Sage à vendre, bon prix ». J'ai en tête des trésors de conseils, de bon sens, des réponses qui n'ont jamais servi. Mon acheteur pourra me consulter sur tout, je serai le remède à ses perplexités. Par ailleurs, à mon âge, mon entretien ne lui coûtera guère. Je m'habille d'un rien. Je ne mange pas plus qu'un vieux chat, assis, debout, couché, je m'endors n'importe où. À bien y réfléchir, je suis une excellente affaire. C'est dit, vous me vendrez. Avec l'argent gagné, vous pourrez vivre à votre aise, pour peu que vous sachiez l'investir comme il faut. Pour l'heure, bonne nuit. Il s'endormit assis. Le lendemain matin, la volonté d'un père étant indiscutable, les deux frères amenèrent le leur au marché. Un négociant fortuné trouva l'offre plaisante. Il se paya le vieillard pour 1000 dinars d'or. Avoir dans sa maison un sage centenaire valait bien ce prix selon son sentiment. Il le mena chez lui sur un âne loué et le fit déposer dans une chambre vide au fond de sa maison. Il voulut éprouver sur le champ ses talents. La paix sur toi, dit-il. Vieux père, j'ai besoin d'un conseil. Goûte ce miel. J'ai l'intention d'en acheter quelques milliers de pots. Est-il de bonnes fleurs ? Le vieil homme flaira, risqua sa langue, inspira un grand coup et répondit : Seigneur, il est agréable au palais, mais je crains qu'il ne soit pas bienfaisant. Il est fait d'un pollen qui sent la mort humaine.
Tu n'as fait que goûter, s'étonna le marchand. Comment peux-tu savoir cela ?
Seigneur, apprends ceci. Le savoir est l'époux, la saveur est l'épouse, et leur fille est la vérité.
J'ai des doutes, répondit l'autre.
Il alla visiter le maître des abeilles. Il lui demanda où ses ruches étaient plantées. L'homme lui désigna un bosquet d'oliviers proche d'un mur de cimetière.
Le marchand, émerveillé, s'en retourna en hâte, prit l'aïeul dans ses bras.
« Ô sage, lui dit-il, ô ornement majeur de ma demeure !»« Seigneur, lui répondit le vieux, Dieu me garde d'être ce que vous dites. Je ne veux pas orner. Je veux, si c'est possible, être parfois utile. Servez-vous donc de moi ou laissez-moi en paix. »
Vieillard, dit le marchand, ces paroles sont si pertinentes qu'elles valent bien un dîner royal.
Il lui fit servir un repas de pain tendre et de mouton rôti. Au premier jour d'été, il revint le voir.
« Que puis-je pour toi, Seigneur ?» lui demanda le sage.
« Écarte le rideau et regarde dehors. Que vois-tu ?
Un jardin, de beaux arbres.
Et que vois-tu encore ?
Une jument, Seigneur. Sa crinière est superbe, ses membres sont fins, elle est de belle race.
J'aimerais l'acheter.
Tu aurais tort, Seigneur. Elle est née d'une mère au bord du retour d'âge.
Le marchand protesta. Vieillard, c'est impossible.
Il courut interroger le vendeur de la bête. Le sage avait bien vu. Son maître s'en revint.
« Merci, grand-père, dit-il tout ébloui, ton œil voit l'invisible, je t'offre un supplément de pain et de mouton. »
Le vieillard soupira. « Seigneur, n'as-tu rien d'autre ?»
Au premier temps d'automne, il se fit un matin grand bruit dans la maison. Assis sur son tapis, le vieux sage écouta, ferma les yeux et sourit. Son maître, en beaux habits, vint joyeusement lui souhaiter le bonjour.
« Je me marie, dit-il. Écoute comme on chante. Père sage, je veux te présenter la reine de ce jour, ma fiancée bien-aimée. Approche, ma gazelle. Grand-père, franchement, comment la trouves-tu ? »
« Elle est belle, Seigneur. C'est l'évidence. Je ne peux dire plus. »«
Tu m'as l'air réticent, répondit l'autre, l'œil inquiet.
N'oublie pas, tu me dois la vérité entière. »
« Je te la dois, hélas, donc il me faut parler. Voici, ta gazelle a pour mère une putain notoire. »«
Qu'oses-tu dire là ? Son grand-père était prince !»«
Vérifie, répondit le sage. »
Le presque marié sortit en grande hâte. Il revint déconfit. Le vieil homme, ce soir-là, dîna de pain et de mouton. Une semaine après ce jour, ses fils le visitèrent. Les 1000 dinars d'or de la vente du sage avaient changé leur vie. Ils avaient acheté une épicerie fine. « Père, es-tu heureux ? Ton maître est-il honnête ?»«
Il l'est, mes fils. Il me soigne. Il m'honore. Chaque fois que je lui donne un conseil judicieux, il me fait porter un dîner de pain tendre et de mouton rôti. » Je lui en suis reconnaissant, car c'est le seul cadeau qui soit à sa mesure. Que pourrait offrir de mieux le fils d'un rôtisseur et d'une boulangère ?
Comme il parlait ainsi, le maître de maison passait dans le couloir. Il entendit, rougit, fuma par les oreilles et faillit exploser.
« Malheur ! Se dit-il. Est-il possible que je sois un enfant du bas peuple ? »
Il courut chez sa mère, une sœur du sultan, dès qu'il fut devant elle.
« Qui suis-je ? » lui dit-il.
« Mon fils, répondit-elle, je dois me confesser puisque tu le demandes. Au temps de ma jeunesse, je ne pouvais donner un garçon à ton père.
Je m'en désespérais et lui n'en dormait plus. Nous t'avons acheté pour 1000 dinars d'or à une boulangère qui venait d'accoucher. Son mari, autant qu'il m'en souvienne, était un rôtisseur de la rue des Cuisines.
Acheté,
ma mère, pour 1000 dinars d'or, oh vérité ! Il partit d'un grand rire. À peine de retour dans sa maison, il s'en fut embrasser son père de sagesse, mais ne put dire un mot, il riait trop. Tu as enfin appris l'humilité joyeuse, et tu sais qui tu es, lui dit le sage. Tu n'as plus désormais besoin de mes services, donc adieu. Je vais aider mes garçons à l'épicerie fine. Ils ont besoin de moi. Ils vendent de ce miel qui sent le cimetière. Ô travail infini! Il sortit, s'étira au soleil du jardin, et du pas mesuré d'un centenaire vert, il s'en fut sous les arbres. Le secret des larmes. La demeure d'Ahmed, A-K-H-M-E-D, était simple, mais son cœur était un palais. Il riait souvent, preuve qu'il était généreux. Aux trois portes de sa maison, tous les matins venaient 6 pauvres. Dans chaque main tendue, il déposait un sou d'or. C'était là sa façon de faire sa prière avant d'aller à son travail. Un jour, parmi ces miséreux, vint un vieillard qu'il n'avait jamais vu. Le bonhomme contempla la pièce offerte, fit la grimace et dit en guise de merci. La générosité d'Ahmed est peu de chose. Je connais une fille dont l'âme embellit tout. Auprès de sa bonté, celle d'Ahmed est comme la lune à côté du soleil. Ahmed lui demanda, où vit-elle? L'homme lui désigna le levant, puis s'en fut en grognant, sa barbe maigre au vent. Ahmed, de cet instant, ne pensa plus qu'à cette créature incomparable, rêvant à son visage heureux, à son haleine parfumée, aux 1000 lumières de son regard. Parfois, quelqu'un en lui disait « Tu imagines trop !» Un autre, dans son cœur, répondait « Elle est plus émouvante encore que dans tes songes. » Un jour, lui vint une voix nouvelle. Elle lui dit « Ahmed, va donc la voir. » Sur l'heure, il confia ses biens à ses amis, se vêtit en mendiant et s'en alla pieds nus par les steppes et les montagnes. Il voyagea longtemps. Il se perdit parfois, parfois désespéra. Un matin, comme il franchissait le rempart d'une ville, il entendit parler d'elle. Un enfant lui désigna au bord du fleuve une maison à la porte bleue. Il y alla et demanda l'aumône. La fille, un vrai soleil, apparut sur le seuil et lui tendit un petit sac de pièces. Ahmed la regarda. Ses jambes tout à coup ne le portèrent plus. Il lui dit « Je n'avais pas osé vous rêver aussi belle. Je viens de loin pour vous. Et maintenant, pauvre de moi, je sais que je ne pourrai vivre si vous ne m'aimez pas. » La jeune fille lui sourit, lui prit les mains et répondit « Homme bon, je te reconnais. Nous sommes promis l'un à l'autre. Mais je ne peux pas t'accueillir avant d'avoir entendu le secret des larmes. » Elle lui apprit qu'à 3 journées de marche, au-delà du fleuve, était une cité où les gens pleuraient et se lamentaient sans cesse, tant ils étaient malheureux. « Je veux savoir, dit-elle, pourquoi ils sont inconsolables. » Pour se faire aimer d'elle, Ahmed aurait couru jusqu'au bout du monde. Il s'en alla donc à cette cité, le pas sonnant, le cœur allègre. Comme il parvenait en vue de ses murailles, il entendit au loin monter une rumeur sinistre. Des plaintes, des gémissements, de longs hurlements de chiens emplissaient le ciel gris. Il entra dans la ville. Les passants sanglotaient, les enfants criaillaient, les maraîchers vendaient leurs légumes en pleurant, les forgerons forgeaient en reniflant leurs larmes. Même les soldats du guet, assis contre les murs, essayaient leurs yeux rouges en regardant tristement le sol entre leurs pieds. Ahmed, cherchant à qui parler, vit au coin d'une place un homme qui cheminait à califourchon sur un bœuf. Il s'approcha et lui dit « Sage entre les sages, instruis-moi, pourquoi les gens d'ici sont-ils si malheureux ?
L'homme brandit son bâton sur sa tête. « Passe ton chemin, étranger » cria-t-il. « Dans la forêt, là-bas, est un vivant qui n'a ni bras ni jambes. Va le consulter, il te renseignera. Moi, je n'ai pas le cœur de parler davantage. » Ahmed le salua et sortit de la ville. 1000 chants d'oiseaux l'accueillirent dans le grand bois. Il marcha jusqu'à parvenir au bord d'une clairière où était une hutte. Près d'elle, un infirme en haillons se traînait dans l'herbe ensoleillée. Ahmed mit un morceau de pain dans la bouche de ce malheureux, puis il lui demanda pourquoi on pleurait tant dans la ville voisine. « Pourquoi ? Pourquoi ? » dit l'homme en gémissant. D'un coup de menton, il désigna le lointain. « Vois-tu ce pic neigeux ? Grimpe jusque là-haut. Au fond d'un précipice, tu entendras hurler un monstre à fac vaguement humaine. S'il accepte de parler, tu auras ta réponse. » Ahmed remercia le manchot Kudjat, sortit de la forêt, prit le sentier de la montagne, s'arrêta essoufflé au bord d'un gouffre. Il ventait fort. Il se pencha, vit en bas dans un chaos de roc un être au corps de singe, à la tête méchante. « Hé, oh ! » lui cria-t-il, « quel malheur t'a jeté dans cette fosse inconnue du soleil ?» L'autre leva la tête et gronda, grimaçant. « Si tu veux le savoir, va le demander au roi du bas pays. Son nom est Sanavar. S-A-N-A-V-A-R. Et maintenant, va-t'en. Je ne veux voir personne. » Au-delà de ce mont était une plaine. Dans ses lointains brumeux, Ahmed vit une cité blanche. Son sac sur une épaule et son bâton au poing, il chemina 3 jours vers elle. Parvenu dans ses murs, il alla au marché, acheta un panier de pommes, vint devant le palais. Il dit aux gardes, « Salut à vous, je veux offrir ces fruits au très estimé prince Sanavar. » On le trouva aimable. On lui ouvrit la porte. Par des couloirs dorés, il fut conduit à la chambre du roi. Sanavar, l'air triste, déjeunait dans son lit. Il tendit ses doigts bagués à son visiteur, puis se remit négligemment à son repas. « Seigneur, lui dit Ahmed, j'ai rencontré un homme singe là-haut sur la montagne. »«
De quoi te mêles-tu ? » grogna le roi, l'œil tout à coup mauvais.
« Seigneur, lui dit Ahmed, j'ai marché 18 jours sans repos. Seul l'espoir de vous entendre m'a poussé jusqu'ici. Pourquoi ce monstre a-t-il été jeté dans le gouffre où il est ? »
Le roi baissa la tête. « Tu auras ta réponse, dit-il. C'est un secret pesant. Parler m'allégera peut-être, Dieu le veuille. Sache donc qu'une nuit, j'ai vu de ma fenêtre mon épouse sortir du palais. Elle dissimulait son visage sous un capuchon noir. Je me suis étonné, je me suis rhabillé en hâte, et j'ai suivi son ombre le long des ruelles désertes jusqu'à une maison isolée, au-delà des remparts. Quand elle fut entrée, je me suis approché sur la pointe des pieds. J'ai regardé dedans par la porte entrebâillée. J'ai vu ma femme ôter son capuchon. Malheur ! Le visage qui m'est apparu était celui de la sorcière Almahuz. A-L-M-A-H-U-Z. En vérité, la reine n'était que cette abominable vieille, travestie par magie en parfaite beauté. Je l'ai entendu dire devant la cheminée,
« Compère ! « Viens là !»
Un monstre, sorti je ne sais d'où, s'est dressé devant elle. Il était laid et velu comme un singe. Elle lui a demandé, en lui lissant le poil,
« M'aimes-tu ? » Il lui a répondu d'un grognement béat.
Alors elle lui a dit encore,
« Va au palais et tue ce Sanavar qui me sert de mari. »
J'ai fui épouvanté. J'ai mis 2 chiens féroces et 4 sentinelles à la porte de mon appartement. Le monstre est arrivé peu de temps après moi. Mes bêtes et mes gardes lui ont bondi dessus et me l'ont amené. Il a demandé grâce, en geignant comme un enfant coupable. Il m'a dit, « Laisse-moi la vie, je serai ton esclave. » Je lui ai ordonné de changer mon épouse en poule noire, ce qui fut fait à l'instant même. Après quoi, mes soldats l'ont jeté dans le gouffre où il est encore. « Va maintenant, garçon, je ne veux plus te voir. » Une larme roula sur la barbe du roi. Ahmed sortit de la chambre.
il quitta du même pas le palais et la ville. Marchant contre le vent, il revint à la haute montagne. Debout sur un rocher, au bord du gouffre, il cria « Sorcier, veux-tu sortir de là ?» L'autre lui répondit « Quelle question, Seigneur, si tu m'aides à m'évader de ce trou de permission, promis, juré, je serai ton serviteur jusqu'au bout de ma vie. » Ahmed lui dit « Attrape !» Il lança une corde de chanvre dans le précipice, hissa l'homme singe, grimpa sur son dos. « Va, mon âne, va chez l'infirme du bois !» Par buissons, rocailles, broussailles et grands arbres, ils parvinrent bientôt au bord de la clairière où était l'homme sans bras ni jambes. Voyant venir le monstre, il se mit à crier « Qu'on le tue, qu'on l'étripaille, qu'on lui crève les yeux, qu'on arrache ses dents, qu'on coupe ses oreilles !»« Pitié, maître !» gémit le grand velu. « Rends ses quatre membres à ce pauvre vivant, » dit Ahmed. Un beau jeune homme aussitôt se dressa. Il prit le monstre au cou en hurlant « Qu'as-tu fait de ma femme ?»« Seigneur, » dit l'autre grelottant, « je la tiens prisonnière. Épargne-moi, je te la rendrai. Elle est dans ma maison. » Ils s'en furent ensemble. En chemin, le jeune homme apprit à son sauveur que ce sorcier qu'il tenait maintenant en laisse s'était un jour travesti en docteur, lui avait enlevé par magie son épouse et avait fait de lui cet infirme promis à la mort lente. « Qui donc es-tu, ami ?» lui demanda Ahmed. « Je suis le roi Sama, S-A-M-A, prince de cette cité où sans cesse on me pleure. » Avec son épouse délivrée, il revint à la ville des larmes. Aussitôt le soleil brilla dans les regards. Ahmed s'en retourna chez sa bien-aimée. La porte bleue s'ouvrit. La jeune fille dit « Bienvenue, homme bon !» Ils vécurent en paix et contents de leur vie. À quelque temps de là s'en vint un bateleur dans les villages alentours. Il tenait enchaîné un monstre velu qu'il faisait parader pour quelques sous. Les enfants, en riant, lui grimpaient sur le dos. Il gémissait sans cesse. « Aimez-moi, s'il vous plaît. Aimez-moi, bonnes gens. » Car les monstres aussi sont en peine d'amour. Lalla Aïcha, elle a deux Ella, plus loin Aïtrema Cha. Autrefois vécut un sultan à qui Dieu avait donné 7 filles, un palais bleu aux plafonds étoilés, 12 jardins parfaits et un vizir aux paroles prudentes. Cet homme était l'époux secret d'une femme génie qu'il rejoignait tous les soirs au pays souterrain. Le sultan l'ignorait. Un matin, il lui dit « Voici ma fille aînée, vizir, épouse-la. » Majesté, j'obéis. Les musiques de la noce firent trembler le soleil. Quand fut venue l'heure de fermer les volets, le vizir fit entrer sa femme chez lui. Il la conduisit dans sa chambre, s'assit près de son lit et se mit à tourner les pages d'un livre ésotérique. Dès qu'elle fut assoupie, il l'aborda, baisa son front et descendit sous terre où sa femme génie l'attendait pour dîner. Le lendemain, la jeune mariée s'aperçut qu'elle avait dormi seule. Elle en fut si vexée qu'elle s'en retourna au palais de son père. « Je suis humiliée, » dit-elle à sa famille assemblée sous la véranda du premier jardin. « Mon époux a méprisé mon corps. Je ne veux plus revoir ce rustre. » Le sultan soupira, leva les yeux au ciel et s'en fut recevoir l'ambassadeur de Chine. Le lendemain matin, comme il prenait le frais dans son orangeray, il dit à son vizir qui somnolait près de lui sur une chaise longue, « L'aîné ne t'a pas plu, épouse la deuxième. »« Majesté, j'obéis, » répondit le vizir. On festoya, on but, on mangea des gâteaux, on lança des pétards, on dansa, puis au soir, on s'en alla au lit. La deuxième épousée se parfuma les seins de musc et s'orna le nombril d'une pierre précieuse. Le vizir fit un peu de lecture assis sur l'oreiller, puis sans un mot courut à ses amours souterraines. Le soleil se levait à peine sur la ville quand le sultan Pantois vit entrer dans sa chambre la nouvelle délaissée. Elle lui hurla au nez « Ton vizir est un lâche !»« C'est un homme de bien !» répondit son père en se frottant les yeux. « Un homme ! » rugit-elle. « Allons !» « Laisse-moi rire !» Et elle se mit à pleurer. « Faudra-t-il mener mes 7 filles au mariage pour qu'une y trouve enfin son bonheur ?» se demanda le vieux sultan. La réponse fut oui. Six revinrent furibondes du lit de leur vizir. La septième y resta. Son nom était Aïcha. Elle avait emporté une poupée d'argent dans sa maison de femme, tandis que son mari, la nuit des noces, lisait près de sa couche. Aïcha rit et joua un moment avec ce petit être, puis elle s'endormit, et le vizir s'en alla comme à l'accoutumée chez sa femme génie. Le lendemain matin, ses six sœurs vinrent à sa rencontre. Elles l'attendirent en vain. Alors, elles envoyèrent une vieille servante à la maison d'Aïcha. « Ma fille, es-tu heureuse ?»«
Servante, je le suis. »
Cette réponse fut aussitôt rapportée aux princesses. L'aînée grinça des dents, la deuxième pâlit, la troisième fit haut, la quatrième grogna, la cinquième tordit méchamment sa bouche, et la sixième dit « Servante, porte-lui l'anneau d'or que voici. Dis-lui qu'il est à vendre et que si son époux est un amant véritable, il ne peut faire moins que de le lui offrir. » Au soir de ce jour, Aïcha prit sa poupée d'argent sur son lit, la berça un moment, puis soupira et demeura songeuse. « Je vois de la mélancolie dans le regard de Lala Aïcha, » dit le vizir. « L'argent rêve d'or, » répondit-elle. « Qui m'offrira l'anneau que mes sœurs ont à vendre ?» « Demain, dit le vizir, Lala Aïcha, sous l'oreiller, trouvera ce qu'il faut pour payer ce qu'elle veut, qu'elle s'endorme heureuse. » Aïcha ferma les yeux. Son époux s'en alla comme à son habitude. Le lendemain matin, la servante revint frapper à sa porte. Aïcha lui dit « Voici ». Elle mit dans sa main une bourse sonnante. L'autre lui répondit « L'anneau d'or est à toi ». La servante trotta jusqu'au coin de la ruelle où les sœurs attendaient. « Il l'aime !» dit l'aînée en soupesant la bourse. La deuxième dit « Non !» La troisième « Peut-être !» La quatrième « Qui sait ?» La cinquième se tut. La cinquième grinça. « Un anneau, même d'or, est peu de chose pour un homme aussi riche. S'il l'aime, il lui paiera ce collier de diamants. Servante, va voir Aïcha et fais-le miroiter devant sa face idiote. » Au soir, tandis que son époux lisait près d'elle, Aïcha parla à sa poupée d'argent. Elle lui dit des mots que l'on dit aux enfants quand ils ont peur de l'ombre, puis elle regarda tristement le lointain. « J'entends Lala Aïcha gémir et soupirer, » dit le vizir. « L'or rêve de diamants, » répondit-elle. « Aurais-je le collier que mes sœurs ont à vendre ?»« Demain, » dit le vizir, « Lala Aïcha, sous l'oreiller, trouvera ce qu'il faut pour payer ce qu'elle veut, qu'elle s'endorme heureuse. » Aïcha ferma les yeux. Son époux lui baisa les paupières et sortit de la chambre. Le lendemain matin, elle paya le collier de 3 bourses pesantes. Les 6 sœurs, ce jour-là, tinrent un conseil funèbre. La première gronda. « Je vous l'avais bien dit. »«
Qu'avais-tu dit ?»
demanda la deuxième. « Qu'Aïcha était aimée, » répliqua la troisième. « Pourtant, elle est quelconque, » estima la quatrième. La cinquième cria. « Ce vizir est décidément l'homme le plus sot de la terre. »
La sixième leur dit. « Mes sœurs, j'ai une idée.
Demain, allons la voir toutes ensemble. Nous la questionnerons, nous examinerons l'ordre de sa maison, nous épierons ses gestes et nous saurons alors à coup sûr si son bonheur est vrai. » La servante courut annoncer leur visite. Au soir, Aïcha attendit son époux assise sur son lit, en reniflant ses larmes. Il entra, vint à elle et dit « Je vois des yeux mouillés, Lala Aïcha, pourquoi ?» « Mes sœurs viendront demain, » répondit-elle. « Comment les accueillir? Notre maison est vide. » »«
Demain, toutes choses seront comme elles doivent être, » dit le vizir.
Aïcha ferma les yeux. Son époux s'en alla passer la nuit ailleurs. Le lendemain matin, dans la cour intérieure, parmi les orangers et les fontaines, Aïcha vit partout, sur des tables couvertes de nappes blanches, de grands plateaux de cuivre. Sur ces plateaux étaient des volailles rôties, des méchouis d'agneau, des corbeilles de fruits, des gâteaux parfumés, des aiguières d'argent, des boissons délicieuses. Lala Aïcha courut se vêtir dans sa chambre, se fit cerner les yeux de kohl, se fit poudrer les joues de rose, mit son collier, son anneau d'or. Elle dit enfin à sa servante, « Quand mes sœurs seront là, viens sans cesse m'appeler de la part de mon époux. » À l'instant de sortir dans le jardin, elle planta un clou près de la porte ouverte. Les princesses furent bientôt annoncées. On les fit entrer, on leur servit du thé sous les orangers, des coupes de fruits, des biscuits, des olives. Comme Aïcha s'affairait auprès de l'une et de l'autre, sa servante accourut et lui dit, « Notre maître, oh là là, se plaint de votre absence. Il désire vous voir. Pardonnez-moi, mes sœurs, dit Aïcha en riant. Mon époux ne peut pas prendre le thé sans moi. Il est tant amoureux que j'en ai le vertige. » Elle s'en fut à la hâte. Les six princesses, renfrognées et fritant leurs biscuits entre leurs doigts nerveux, l'entendirent rire et parler vivement dans la chambre. Enfin, elle sortit. Le clou près de la porte accrocha sa manche. « Par pitié, mon époux, ne me retenez pas, dit-elle. Je dois aller tenir compagnie à mes sœurs. Ce n'est pas si souvent qu'elles viennent me voir. » On servit les volailles et le rôti d'agneau. Au milieu du repas, la servante à nouveau vint se pencher à l'oreille de sa maîtresse. « Votre époux demande où vous en êtes, là. Oh là là. Il soupire après vous. » Aïcha s'en fut encore. Rit, joua à grand bruit dans la chambre, revint, prit sa manche au clou près de la porte. « mon époux, que vont penser mes sœurs ?» gronda-t-elle en tirant sur son habit. On servit les gâteaux. Un joueur de lutte vint converser avec les rossignols. La servante accourut encore. « Votre époux se morfond, oh là là !» Elle prit la main d'Aïcha, l'entraîna dans la chambre. « Elle m'énerve !» dit l'aînée des princesses restée seule sous l'oranger. « Moi, elle m'horripile !» renchérit la deuxième. « Je vais hurler !» avertit la troisième. « J'ai envie d'écorcher quelques oiseaux vivants et de leur enfoncer les ongles dans les yeux, juste pour me calmer, » marmonna la quatrième. La cinquième, « Baya !»« Partons !» dit la sixième. Quand, au soir de ce jour, le vizir entra dans la chambre de Lala Aïcha, elle fit semblant de dormir. Il vint près du lit, lui caressa la joue et s'éloigna sans bruit. Elle le vit manœuvrer une porte secrète et s'enfoncer dans l'étroit escalier qui menait au pays de sa femme génie. Elle le suivit de loin, parvint derrière lui dans un jardin ensoleillé. Au fond de ce jardin était une maison. Aïcha vit le vizir pousser la porte, entrer. Soudain, elle entendit pleurer un nourrisson près d'elle sous un arbre. Elle le prit dans ses bras, le consola, dénoua sa ceinture, suspendit son berceau à l'ombre du feuillage, puis remonta, ferma la porte de sa chambre et bientôt s'endormit. Dans le pays d'en bas, le vizir et sa femme génie sortirent au jardin. Ils virent leur enfant apaisé dans sa corbeille que balançait la brise. « À qui donc appartient cette ceinture ?» dit l'épouse génie. « Le sais-tu ?» Le vizir répondit. « Je l'ignore. Homme, ne ment pas. C'est celle de Lala Aïcha. Béni soit son nom, car elle a pris soin de mon fils nouveau-né. Épouse-la sans crainte. Elle qui a bâti son bonheur de ses mains saura bâtir le tien. Va et reviens parfois visiter ton enfant. » Le vizir rejoignit Aïcha, sa belle épouse. Il se coucha près d'elle. Jusqu'à l'aube prochaine, ils ne dormirent. La caravane. Il était une fois dans la ville du Caire, C-A-I-R-E, un pauvre cordonnier affligé d'une femme aussi insupportable que le vinaigre dans l'œil. Il s'appelait Marouf, M-A-R-O-U-F. Il vivait sans plaisir, les épaules voûtées sous le fardeau de railleries mesquines et d'insultes criardes que sa rude moitié accumulait tous les jours sur lui. S'il voulait l'embrasser, elle grinçait des dents. S'il lui tendait la main, elle sortait ses griffes. S'il lui parlait d'amour, elle l'envoyait paître. Un soir, elle gifla sa face sous le discutable prétexte de tuer sur sa joue une puce invisible.
Ce fut la goutte de trop dans son écuelle quotidienne de soupe à la grimace. Il décida donc d'aller chercher la paix ailleurs. Il s'en fut par les ruelles, la bouche sanglotante, l'esprit tumultueux, le front tourmenté. Il marcha au hasard jusqu'à parvenir dans une ruine ouverte sur le ciel. C'était un vieux couvent. Là, il posa le front au creux de ses mains et se mit à prier. « Ô Seigneur tout-puissant et miséricordieux, dit-il, emporte-moi d'ici, conduis-moi en un lieu à l'abri des chagrins. » Tout au long de la nuit, il répéta ces paroles. Comme la lune déclinait, un homme haut de taille sortit soudain de la muraille. Son corps était baigné de lumière, comme si dans son cœur brûlait une chandelle. « Je suis l'Abdel Makan, A-B-D-E-L, plus loin, M-A-K-A-N. Le serviteur du lieu, dit-il. Que me veux-tu ? » Marouf lui confia ses peines et son espoir. Quand il eut parlé, l'Abdel Makan lui dit « Ne crains pas. » Il le prit par le col et tous les deux s'envolèrent dans le jour naissant. Au-dessous d'eux passèrent des fleuves, des bateaux, des déserts, des villages. Longtemps, ils voyagèrent parmi les oiseaux étonnés. Et pourtant, le soleil sortait à peine des brumes quand Marouf se posa, comme au sortir d'un songe, au milieu d'une ruelle parmi des charretées d'oranges et d'épices. Il demanda « Où suis-je ? » On lui dit qu'il était dans la ville d'Ikhtiar, I-K-H-T-I-A-R. Sa mine abasourdie amusa les gens autour de lui. On le poussa du coude. On lui dit « D'où viens-tu ? » Marouf montra le ciel. Alors on ricana. Comme il restait stupéfait, on lui cracha aux pieds. Des poings bientôt le tiraillèrent. Il voulut s'en aller. On le bouscula rudement. Un homme bien vêtu fendit alors la foule en criant « Honte sur vous, Jean d'Ikhtiar ! Êtes-vous des chiens pour maltraiter ainsi un voyageur perdu ?» L'homme entraîna Marouf vers un porche à la voûte ornée de vignes vierges. Il le fit entrer chez lui et lui offrit du thé. Après quoi il lui dit « Quand je suis arrivé dans cette cité, j'étais aussi pauvre que toi. Sais-tu ce que j'ai fait ? J'ai dit partout en ville que j'étais fortuné et que j'attendais une caravane chargée de bois précieux et de tissus de Chine. Sur la foi de cette rumeur, on m'a prêté de l'or que j'ai, bien sûr, promis de rembourser dès que m'arriveraient ces trésors inventés. Avec cet or, j'ai fait quelques bonnes affaires. J'ai rendu mes emprunts, j'ai fait fructifier le bénéfice acquis et je suis devenu, en une année de négoce, un commerçant aisé. Prends dans ma garde-robe un bel habit brodé. Quand on emprunte, il faut payer de mine et fais comme j'ai fait. » Marouf remercia ce compagnon inespéré et se déguisa en marchand respectable. C'était un rêveur de haut vol. De si rares merveilles à ce qu'il prétendit, faisait route vers lui que lui furent ouvertes les portes de quelques palais. Il ne s'enrichit pas pour autant, au contraire. Il était généreux, grave défaut pour un homme d'affaires. Il ne supportait pas le feu de la misère dans le regard des mendiants. Il distribua donc tout l'or qu'il emprunta. Et du coup, les riches se disputèrent l'honneur d'être de ses amis intimes. Sa caravane avait quelque retard. « Qu'importe, disait-on, un homme assez sûr de sa fortune pour la semer en œuvre charitable est digne assurément de confiance infinie. » Il emprunta encore. Encore on lui prêta. Encore il donna tout aux pauvres. Encore on patienta. Sa caravane n'arrivant toujours pas, on se mit enfin à douter. Ses créanciers se dirent: ce n'est pas son or qu'il offre aux miséreux, sacré Dieu, c'est le nôtre. Et si ce bon Marouf était un imposteur ? Ils allèrent se plaindre au roi de la cité. Fin de la première face de la 7e cassette. Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse, page 291. La suite et fin de l'histoire de la caravane se trouve sur la deuxième face de cette cassette. À tout de suite.